Parlons maintenant du parcours d'un jeune, de son arrivée jusqu'à son départ du centre de formation. Les jeunes, comment arrivent-ils au centre de formation de la SIG? Il y a de votre côté un travail de repérage, de détection, ou bien il y a aussi des jeunes qui vont peut-être vous envoyer des vidéos de leurs exploits ou du bouche à oreille?
Pour nous, il n'y a pas de source à négliger, en fait. Il y a tout ce que tu disais, là. Il y a évidemment des gens qui postulent de manière spontanée. Il y a des gens qui sont suivis, en particulier par Olivier Lauriane, d'ailleurs, sur les camps de jeunes sélections, etc. Il y a par les agents également, parfois, qui nous mettent la puce à l'oreille quand un potentiel quelque part. Donc, il y a vraiment beaucoup de sources. C'est aussi pour nous une voie de progression pour essayer de toucher des joueurs qui ne sont peut-être pas vus tôt par d'autres équipes, etc. D'accord ? Donc ça c'est un gros boulot. Et là, Olivier, il m'a mis de la pommade un petit peu tout à l'heure, donc je vais lui en mettre aussi. C'est bon procédé.
Pour le gâcher qui est à côté.
Oui. Olivier, il a cette chance d'avoir vécu ce parcours-là. Donc il le connaît par cœur. Donc il connaît les embûches, donc il peut bien conseiller les jeunes et les parents pour leur dire en toute sincérité, parce que peut-être ce qui nous relie énormément, c'est cette sincérité et ce respect des jeunes qui arrivent. Donc ils arrivent et on leur explique quel est le cursus, quelles sont nos valeurs à nous dans le club, et après, c'est plutôt à eux de s'engager. Donc nous, on cible des joueurs évidemment, mais on aime bien, nous, au centre de formation, que les gens qui entrent s'engagent à se dire pour moi, ça va être le milieu dans lequel je vais évoluer de manière favorable.
Et ces jeunes, vous les repérez à partir de quel âge? Les premiers repérages, ça peut se faire déjà 11-12 ans, peut-être même plus tôt?
En fait, pour les locaux, c'est vers les 11-12-13 ans. Et après, au fur et à mesure que s'étend l'âge, qu'on grandit sur les catégories U15, ce qu'on appelle U15 maintenant, c'est-à-dire 14-15 ans, ils sont dans la filière fédérale. Alors là, on les suit pendant un an, deux ans. Même sur les TIC, ce qu'on a les intercomités, les tournois intercomités, mais pas que. Après, il y a des joueurs qui sont hors circuit fédéral parce qu'ils ont commencé le basket à 16 ans, par exemple. Alors on a des contacts, après c'est tout le réseau qu'on essaye de mettre en place. On essaye de travailler aussi avec des scouts aussi, avec qui dans d'autres régions. On trie, on les voit sur des rencontres. Il y a certains qui nous font des actes, des fiches de candidature avec des vidéos, etc. Je vous avoue, le plus intéressant, c'est quand on les voit sur le terrain, quand on discute avec leur entraîneur, quand on rencontre après les parents. En fait, c'est pas juste voir le jeune. Avant, au tout début, je voyais le jeune. Waouh, belle technique. Un beau tir, athlétique, on voyait les choses qui impressionnaient. Mais on se rend compte avec vraiment l'expérience, et très sincèrement, on voit, même s'il y en a qui réussissent, des fois, s'ils n'ont pas le socle, s'ils n'ont pas la maturité, s'ils ne s'embarquent pas avec le club, avec leur famille, si les familles ne croient pas au staff, si les familles ne croient pas au club... derrière, il va manquer quelque chose, ou alors ça va aller trop vite, et après ils peuvent réussir forcément, mais c'est quand même mieux d'être lâché dans le grand bain en ayant quand même tous les éléments. Et là, je pense que les familles ont un rôle très important, mais après, nous aussi, on doit détecter, est-ce que le garçon a une entraînabilité, est-ce qu'il a la capacité d'encaisser les 12 heures d'entraînement, faire correctement ses devoirs, parce que ces garçons, certes, pour les plus passionnés, c'est aucun problème. S'entraîner 12 heures par semaine, un match des fois, voire deux le week-end, faire leurs devoirs, en plus, on ne leur demande pas d'être des premiers de la classe, mais avoir des attitudes, une envie de travailler, d'avoir des résultats corrects, c'est énorme. Si on a des garçons qui ne sont pas très passionnés, on le voit assez rapidement, malheureusement pas toujours tout au début. On sent qu'il peut y avoir de la lassitude après, et les échecs peuvent faire mal, il y a des cicatrices. Et en fin de compte, on ne se rend pas compte que... certaines cicatrices qu'on peut subir pendant cette période-là de 15 à 21 ans, ben le reste. Hein. Et on a eu des cas où on a des garçons qui étaient internationaux et qu'au bout d'un an, deux ans, ils sont rentrés par exemple à l'INSEP. Au bout de deux ans, ils sont revenus avec nous et ils ont arrêté le basket. Et ils ont arrêté le basket parce que ce qu'ils pensaient au départ, ils ont compris qu'ils n'y arrivaient peut-être pas et que ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire au final. C'est pas rien quand même. Donc on a la responsabilité de tout ça et j'y fais énormément attention. Et je pense que l'ensemble du staff en prend totalement conscience. Et il faut être nous aussi, et on l'est, c'est pour ça que je dis l'importance d'être très complice entre le staff, parce qu'un joueur ne peut pas raconter quelque chose à Abdel et raconter l'opposé à Lauriane. Et que ce soit Julien Laine, préparateur physique et coach adjoint qu'on a, lui raconter d'autres choses. On le sait pas dans la minute, mais on le sait en général dans les 2-3 jours. Pour pas dire dans l'heure, pour pas être prétentieux. Mais globalement, c'est important aussi parce que le garçon se sent entouré aussi. Et des fois, il y a des messages que les jeunes ont envie de faire passer. Ils ont peur de le dire à l'entraîneur et ils viennent le glisser à moi ou à Lauriane ou à Julien. Donc ça, c'est intéressant aussi. On leur dit ça. Hein. On les briefe en début d'année, les familles et les joueurs. Je crois qu'on est un peu débordé.
Non, ça complète certaines questions que j'allais poser, que je n'ai pas forcément besoin de poser. Mais il m'en vient une.
Je voulais juste rajouter peut-être, on a quand même raté un joueur. Ça j'ai beaucoup de regrets. Bon, il y a longtemps. Hein,
c'était la préparation, on avait commencé dans les années 80.
Ouais, 75, 80, ouais, par là.
76.
C'était un gamin du coin en plus, de Reichstätt par là. Et on l'appelait quoi ? Le pâtissier de Reichstätt ?
Non, le boucher, je crois.
Le boucher de l'Avance.
Oui, le bien inspiré de Crawford Palmer, d'ailleurs.
Bah, ça, je sais pas. Oula, c'est... La comparaison.
Ah non, la comparaison s'arrête là.
Voilà. La comparaison s'arrête là. J'ai beaucoup de respect pour Crawford.
Crawford Palmer était surnommé le boulanger, puisqu'il distribuait des pains.
Ah,
effectivement, ça, c'est fut la légende, un temps, j'ai été surnommé le boucher de la vente zone, puisque moi je débitais les joueurs.
Ah d'accord.
Voilà.
Et donc on a raté ce potentiel à un moment donné.
Qui aurait coûté trop cher en amende au club, je pense, ça aurait plombé le budget pour un rendu basket quasi nul.
C'est une vraie cicatrice. Hein.
Ah oui. Ça travaille aujourd'hui.
Mes anciens adversaires aussi en ont des cicatrices d'ailleurs.
Mais apparemment maintenant il fait du saxo. Hein. Manu Dibango. Oui.
Attention.
L'appelle-t-on.
La question qui tue. Eh bien la question qui tue, comme j'ai deux tueurs en face de moi. Je me suis dit, je vais être tranquille. Posez-vous chacun l'un à l'autre la question que vous n'avez jamais osé vous poser. Ah ! Ça, c'est une question de boucher.
La question qu'on n'a jamais
osé poser. Pose à Abdel la question que tu n'as jamais osé lui poser. Et Abdel, toi aussi. Il y a un côté, je ne sais plus comment s'appellent ces émissions de mariage, là.
Oui.
Alors... On peut y revenir en fin de podcast.
C'est complexe là.
On va faire ça.
On s'est tellement posé de questions.
Eh bien, on y reviendra en fin de podcast. Abdel, on revient à l'importance des études pour les jeunes joueurs. Est-ce que ça veut dire qu'un joueur qui a eu une semaine scolaire difficile, qui a un petit peu lâché prise, pour le remotiver, tu peux ne pas le mettre dans le groupe un week-end pour lui dire « Bonhomme, faut que tu te ressaisisses ou pas ?»
Non. Ça, on ne le fait pas. Au niveau des entraînements, oui. Quand, encore là, il y a des révisions de bac, des choses comme ça, de bac blanc. Là, on exempte un joueur d'un entraînement ou deux, s'il le faut. Mais au niveau des matchs, non. En général, non.
Là, je peux le couper. Hein. Parce que quand il raconte des bêtises, j'ai le droit de le dire.
Ah. Bien sûr.
Non, en fait, oui, je vois, il a répondu spontanément. Mais en fait, on est très vigilant à ça. Par exemple, ce soir, on a un garçon qui devait jouer en U21 et on joue en semaine. Et c'est un garçon qui va passer son bac, hein, son bac S, qui est Lucas Beaufort. Et on sait qu'il va louper certaines matières dont il a besoin. Et on ne souhaite pas en rajouter du retard, parce qu'on souhaite qu'il ait en priorité son baccalauréat l'année prochaine. Donc, il n'est pas parti à Paris. Mais ce n'est pas sous forme de sanction.
C'est plus pour l'aider.
Oui, voilà, c'est pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Et ça, on a cet échange-là.
Effectivement, ça c'est le cas pour les matchs en semaine, par exemple.
Oui.
Là, il y a de gros impacts, hein, pour les études quand un
jeune rate deux
jours. Je déconne pour les bêtises, mais parce qu'il parlait des week-ends.
Oui, là, le week-end, ça pose moins de problèmes.
Oui. Sauf si vraiment il y a un cas avéré de fainéantise. Forcé ou voulu ou un manque de
collectif,
un manque de considération totale vers ses études.
Mais en tout cas le fait de pas participer à un match, nous on le fait pas ressentir, et c'est pas le cas, c'est pas une sanction.
Ouais.
C'est il ne participe pas à un entraînement, à un match, il ne fait pas un déplacement avec les U21 pour lui permettre
De se concentrer
sur une partie de ses études importantes.
Et alors, le quotidien d'un joueur du matin jusqu'au soir, ça va être quoi? Le quotidien habituel?
Oui, réveil vers 7h. Ensuite, entraînement, pas tous les jours, mais le matin de 8h30 à 9h45, au moins deux fois par semaine pour tous les joueurs, voire trois fois. Ensuite, ils vont en cours. Et entraînement à nouveau le soir, donc à part un soir dans la semaine, sinon tous les autres soirs, entraînement, alors des entraînements soit du type tout mélangé U21 et U18, où là on appelle ça du jeu réduit, des choses plus fondamentales, et puis soit des entraînements collectifs avec chacun son équipe, donc les U18 d'un côté et les U21 de l'autre.
Et au niveau physiologique, j'imagine qu'il y a une attention toute particulière. Ce sont des jeunes qui sont encore en pleine croissance. Ça peut avoir un impact sur leur forme, sur des risques d'accident.
Ah oui, c'est Julien Laine qui est chargé en particulier, qui est assistant sur les deux équipes, hein, U18 et U21, qui nous tient au courant des charges d'entraînement, etc. Et puis, il y a le staff médical. C'est lui qui est... Qui nous dit s'il faut laisser un gamin au repos, etc. Dès qu'il y a... On essaye, nous de passer le message aux jeunes de vraiment être sincères quand ils ont mal, qu'ils le disent. Après, c'est quelque chose de délicat, parce qu'il ne faut pas...
Certains
ont
mal un peu plus vite que d'autres.
Voilà. Et ça, c'est le côté un petit peu délicat. Mais dans tous les cas, on les envoie vers le staff médical, qui, lui, a complètement les clés pour nous dire il peut continuer, il peut essayer un petit peu, il faut l'arrêter à tout prix quelques jours, deux mois. Et ça c'est pas facile, hein, pour un jeune joueur qui veut s'entraîner tous les jours, l'arrêter pendant un mois et demi ou deux mois, comme c'est le cas pour certains, hein, qui sont en pleine croissance, comme tu disais. C'est un crève-cœur, hein, mais
ça,
il faut passer
bien
par là.
Et puis, il y a un autre aspect. Comme les joueurs viennent de nombreux horizons, ils n'habitent pas forcément à côté des salles d'entraînement. Ils sont logés dans une sorte de dortoir. Il y a ce côté, vous êtes fait office un peu de deuxième papa, de grand frère.
En fait, ils sont pratiquement tous à l'internat. Pour les U18, en tout cas, à l'internat.
Les
lycées Marc Bloch. Oui. Ils sont lycées, oui. On a un jeune, de temps en temps, là, c'est le cas, qui est... pas lycéen encore, qui est encore mini, mais qui joue en U18, lui, il est actuellement dans une famille d'accueil. Et après, les plus âgés, les U21, ils sont logés en appartement.
Ou en famille.
Ou en famille. Voilà, donc il y a vraiment tous les cas de figure. Mais le gros de la troupe, je dirais, pour les U18 qui sont au lycée, ils sont tous ensemble à l'internat.
Et comment gérer la vie de ces jeunes gens, les premiers amours, les premières jalousies, les premières star-attitudes peut-être pour certains? J'imagine que ça fait partie d'un management hors pur sport, mais qui est important et pour la cohésion de l'équipe et pour la cohésion du centre.
Ouais, c'est vrai, ça touche une question très importante, puisque c'est des jeunes qui arrivent à 14-15 ans.
Pour moi, c'est une question qui tue, hein.
Ah oui, c'est peut-être la question.
Ah ben voilà, on l'a trouvé.
Ah, très bien. Oui, il faut s'imaginer, c'est des jeunes qui ont 14 ans, qui ont un rêve de devenir joueur pro. On les a de 14 ans à 20 ans. Donc, on peut s'imaginer le bouleversement psychologique qu'il peut y avoir dans ces années-là. Et nous, on doit les accompagner au mieux. Donc, c'est un mélange de dureté qu'on peut avoir des fois avec eux. C'est vrai, là, Julien, Lauriane, Olivier et moi, on est sur le même cap. Hein, ça, on n'en dévie pas beaucoup. On doit leur apporter cette rigueur d'entraînement, cette organisation, ce fait de grandir, hein, de passer de presque enfant, disons préadolescent à adulte, de la meilleure manière possible, en étant, voilà, avec cette rigueur, mais en même temps en comprenant bien quelles sont leurs aspirations et tout ce que tu décris là, hein, premiers amours, l'envie, c'est vrai, pour les stars naissantes, entre guillemets, etc. Et les déviances qu'il peut y avoir dans les comportements. Donc parfois c'est mal perçu, on le sait bien. Les parents le perçoivent mal des fois, parce qu'on peut être un peu rude avec eux. Les jeunes, bah, évidemment, on se remet à cet âge-là, on ne sait pas forcément ce qui est bon pour soi. Donc nous, on doit les laisser s'épanouir et avoir leur personnalité. Mais d'un autre côté, les prémunir de tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer.
Les joueurs ont-ils une culture basket ? Je vous pose la question pour avoir parlé avec un recruteur d'un grand club de Ligue 1. Il me disait que les jeunes qu'il avait en espoir n'avaient pas la moindre culture des grands anciens que pouvaient être Platini, Cruyff ou bien d'autres. Est-ce que là, les jeunes savent qui était Michael Jordan, qui était Karim Abdul-Jabbar, qui était Olivier Weissler aussi ?
Clairement.
Olivier Weissler, ils doivent le savoir, ça. Parce que là, non, ça me fâche. Hein.
Ah, bah, je te demande.
Karim Abdul-Jabbar, même moi, je le connais pas.
Bon, c'est un acteur, non, mais... donc, qui y a-t-il un pilote dans l'avion ?
Honnêtement, même dans nos conversations habituelles ou au quotidien qu'on peut avoir, j'ai pas spécialement un avis très tranché, mais il y a une chose qui me revient souvent. Les garçons connaissent beaucoup les joueurs NBA, mais ne connaissent pas les joueurs français.
Les Stéphane Ostrovski, Richard Nkobi,
même plus
récents. Mais même actuels, même les joueurs de maintenant en JP Elite. Et américains de la JP Elite aussi, ou d'Euroleague. Des fois, on se demande, c'est un peu... On se dit, mince, on a loupé quelque chose. Mais bon, après, ils peuvent pas tout voir non plus. Hein.
Bien sûr, mais on voit qu'il y a quand même un centre d'intérêt très porté sur la NBA.
Oui. Enfin, moi, c'est mon avis. De ce que je peux,
mais après, c'est vrai que statistiquement, on peut dire que c'est le cas. Mais c'est tellement différent entre les jeunes. Justement, Olivier parlait de passion. Les vrais passionnés, il n'y en a pas beaucoup. Hélas, pour nous et pour eux, ceux-là connaissent bien, ces passionnés connaissent très bien l'Euroleague, quand j'en parle avec eux, les joueurs voilà, auxquels ils peuvent s'identifier, l'Euroleague, la JP Elite. Et puis, il y en a beaucoup également qui ne connaissent pas ces joueurs. Hein, et c'est vrai, il y a le phénomène NBA. Donc, la NBA, c'est très bien pour voir des joueurs très forts, en fait, hein, qui ont des fondamentaux extraordinaires, une vitesse d'exécution. Mais ensuite, ça, c'est le bon côté de la NBA. Le mauvais côté, c'est l'aspect collectif, qui n'est quand même pas le même que celui qu'on connaît en Europe.
Scottie Reynolds, que vous côtoyez régulièrement, disait lors d'un podcast précédent que ce sont quasiment deux sports différents, le basket américain et le basket FIBA.
Ah oui, 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 oui. Oui, on sait que le basket américain, bon, il y a beaucoup de business derrière. On aime les duels outre-Atlantique.
Il y a un côté foot américain où l'équipe s'arrange pour mettre en bonne position le shooter de l'équipe,
voilà,
finalement.
Voilà, c'est ça. C'est l'aspect guerrier l'un contre l'autre, un contre un, etc. Je montre que, voilà, que je suis fort joueur. Ce n'est pas une critique du tout, hein. c'est un système. Voilà. En revanche, en JP Elite, en Euroleague, on voit bien que c'est un peu plus nuancé que ça. Il y a cet effet un tout petit peu, mais il y a surtout l'aspect collectif et tout faire pour que l'équipe gagne un maximum de matchs.
Et c'est là qu'on voit que le basket mondial revient sur le basket américain aussi.
Oui, peut-être. Bon, maintenant, il faut aussi s'imaginer qu'en NBA, la grosse différence, vous ne pouvez pas imaginer un match avec LeBron James où il a shooté trois fois dans le match, quoi. Là, à mon
avis, ça plaira pas au sponsor.
Le propriétaire, il va se dire, bon, coach, il y a un petit souci, là. Je dépense tant et tant. Voilà, donc ce genre de choses, à un moment donné, voilà, il y a des role players et des franchise players. Puis les joueurs de franchise, le jeu se construit à travers eux. Mais parce que à un moment donné, voilà, l'aspect pécunier, l'aspect financier est très important. Et enfin, c'est prioritaire en fait à la bonne marge de l'entreprise NBA, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que en Europe, il reste quand même la culture de la gagne, d'un match, avec l'intensité, avec la représentation collective, tactique, qui est quand même assez impressionnante. Quand on voit l'Euroleague, où des role-players peuvent déclencher, peuvent renverser le joueur qui peut-être cadre à un moment donné, c'est culture de la gagne, mais assez, très aspect sur le technico-tactique. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus ennuyé pour tous nos jeunes et moins impressionnant de voir un alley-oop monstrueux ou quelque chose d'extraordinaire quand même, parce que ces joueurs-là sont capables de faire des choses très flamboyantes, donc ça donne envie forcément.
Moi j'ai le souvenir à l'époque où tu étais encore joueur de ces éditions du Buckler Challenge. Où une université américaine était invitée chaque année. La SIG recevait, il y avait à chaque fois un club français, l'un ou l'autre club européen et une université. Et on voyait à quel point ces joueurs universitaires américains étaient beaucoup plus costauds que la plupart des joueurs européens, mais extrêmement naïfs par rapport aux règles. Il y avait énormément de marchés, de reprises, de portées, enfin ce genre de choses, des fautes extrêmement naïves également.
Ouais, ben si vous voyez des matchs universitaires. Déjà, ça se joue dans les possessions de 35-40 secondes de la possession. C'est long, c'est des fois laborieux, c'est des défenses de zone pendant des fois tout un match. Mais il y a un aspect tactique qui est quand même intéressant. C'est une autre culture. Il y a la culture américaine est formée sur des programmes où chaque année le joueur qui rentre freshman, le sophomore, je veux dire, chacun doit respecter sa tranche d'âge, ses années. C'est peut-être un bon système. Je suis pas là pour d'ailleurs en juger ou quoi que ce soit. C'est juste un constat. Mais je sais que nous, à l'époque aussi, on avait un peu cet esprit-là, il y a 10 ans. D'abord, chacun, les cadres devaient placer. Vous savez, c'est comme dans les internats d'époque ou dans les grandes écoles. À un moment donné, la deuxième année, bisuite les premières années. Et voilà, et c'est comme ça, et ça se fait de tradition. Moi, j'ai toujours dit, je suis contre ça. Parce que c'est humiliant des fois pour certains, c'est pas valorisant pour celui qui en veut plus que celui qui glande un peu plus. Moi, la réalité du terrain, un joueur, s'il est le plus jeune, s'il doit dépasser le joueur qui a 2-3 ans de plus, parce qu'il a une potentialité supérieure, parce qu'il est plus rentable, parce qu'il est plus assidu, parce qu'il est plus passionné, parce qu'il est meilleur, tout simplement, et qu'il mérite plus, eh ben, il va jouer plus. Et voilà,
c'est pas toujours bien perçu, ça, d'ailleurs. Hein.
Ouais, ça me fait penser à un joueur dont on va parler.